à tous. On va prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que toi, tu es au-dessus de tout. Tu es aux cieux, nous sommes sur la terre. Et vraiment, nous voulons nous tenir dans l'humilité devant toi, dans la reconnaissance, la confiance aussi. Et c'est vrai que nous te remettons particulièrement Zacharie ce matin, ses parents, toute la famille, Seigneur Jésus, que tu accordes ta grâce, que tu montres ta puissance, ton amour. Merci de te révéler dans cette situation, de montrer qui tu es. Seigneur, merci pour ton enseignement aussi, de ta parole, et nous voulons réfléchir aussi sur ce que tu nous as enseigné dans ta parole, sur ton royaume, pour grandir aussi dans la foi et être affermi jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Amen. Alors, je vous ai partagé, c'est une note, c'est une petite étude en fait des paraboles. Je vous avais partagé sur la première parabole de Matthieu 13, la fois dernière que je suis venu. Et donc là, je vous partage sur la deuxième parabole de Matthieu 13. Donc on va le prendre, c'est dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Donc c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Donc on a d'abord de 24 à 30 et ensuite de versets 36 à 43. Alors c'est Jésus, il est question de Jésus là. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc si on va voir au verset 36, c'est le Seigneur qui donne l'explication. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors le Seigneur nous donne l'explication. Il nous explique les différents intervenants dans la parabole. Il nous dit le semeur, c'est le Fils de l'homme. L'ennemi, c'est le diable. Le champ, c'est le monde. La moisson, la fin du monde. La bonne semence, c'est les fils du royaume. Les moissonneurs, ce sont les anges, et l'ivraie, ça représente les fils du malin. Mais il reste quand même, pour moi, quelques ambiguïtés pour interpréter la parabole. En particulier, quels sont les fils du malin ? Est-ce que c'est les païens ? Parce que le Seigneur nous dit, le champ, c'est le monde. Alors, est-ce que les fils du malin, c'est les païens ? Et ça nous dit que les chrétiens vivent dans le monde, au milieu des païens. Ou est-ce qu'on parle plutôt des faux chrétiens ? Les vrais chrétiens et les faux chrétiens sont ensemble, cohabitent dans l'Église. Donc moi, je pense personnellement, je penche plutôt pour la deuxième interprétation. Parce que là, le Seigneur, il nous parle, il nous enseigne à travers cette parabole pour nous enseigner à propos de son royaume. Il dit, le royaume des cieux est semblable à... Donc il veut nous enseigner différents aspects de son royaume. Et la parabole commence, elle dit, le Fils de l'homme, sème la bonne semence dans son champ. Ce champ lui appartient. Alors le Seigneur nous dit le champ, c'est le monde. Mais je pense que dans cette parabole, le Seigneur identifie le champ au monde plus pour nous parler de l'étendue de son royaume plutôt que pour nous dire que ses enfants vivent au milieu des païens. En effet, le Seigneur a envoyé ses enfants jusqu'aux extrémités de la terre. On peut prendre Actes 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis si on prend dans 1 Corinthiens 3, verset 9, ça nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc avec ce verset, on voit bien que le champ du Seigneur, c'est l'Église. C'est là qu'il travaille. Donc je pense que le champ représente l'Église universelle, répandue sur toute la terre. Et on voit aussi que le Seigneur a planté, envoyé ses enfants, puis l'ennemi est venu semer l'ivré, et non l'inverse. Donc l'ivré ne peut pas représenter les païens, qui était déjà dans le monde quand Jésus a envoyé des disciples. Et en plus, on voit au verset 25, ça nous dit que l'ennemi se malivrait parmi le blé. Donc c'est bien au sein des enfants de Dieu que les enfants du diable ont été introduits. Donc on a le blé qui représente les vrais croyants, et l'ivré qui représente les faux croyants, et l'un et l'autre se trouvent dans l'Église. C'est un peu une pensée déconcertante. L'Église comporte des vrais et des faux croyants. Et ça, c'est vrai dans le monde entier, dans les églises du monde entier. Le champ, c'est le monde. Alors, si on s'intéresse un peu à l'ivraie, l'ivraie, c'est quoi ? C'est une plante de la même famille que le blé. Apparemment, il existe une dizaine d'espèces d'ivraies. Et il y en a certaines, peut-être pas toutes, mais qui ressemblent énormément au blé. Et en fait, comme on le voit dans la parabole, hein, ils disent, c'est quand l'herbe eut poussé et le fruit sorti, c'est à ce moment-là que les ouvriers disent que l'ivraie est sorti. En fait, c'est vraiment seulement une fois que le fruit apparaît qu'on est capable de distinguer l'ivraie du blé. On voit là, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est au moment où le fruit est porté qu'on peut voir qu'en fait, c'était de l'ivraie. En fait, il y a l'ivraie qui a des grains un peu noirs et le blé qui a des grains dorés. C'est comme ça qu'on distingue, pour une espèce précise de l'ivraie. Hein. Je ne dis pas que c'est pour ça, comme ça pour toutes. Et en fait, certaines espèces d'ivraie, donc l'ivraie, pourquoi le mot ivraie, ça vient du mot ivresse ? Parce que l'ivraie a des effets similaires à petite dose à ceux de l'ivresse. Elle induit des effets similaires à ceux de l'ivresse. Et en fait, à haute dose, elle est complètement toxique et peut être mortelle. En grec, le mot ivré, c'est zizania. Ça a donné le mot zizanie. Donc la parabole, elle ne nous dit pas quelle proportion il y a d'ivré par rapport au blé. Pendant, on peut penser quand même qu'il y a beaucoup plus de blé que d'ivré, gloire à Dieu. Beaucoup plus de vrais croyants que de faux croyants. Et oui, l'ennemi vient de nuit, de façon dissimulée. Il ne veut pas être remarqué, il veut faire son travail rapidement. Il ne va pas répandre l'ivraie avec autant de soin que le semeur a pris pour répandre le blé dans son champ. Le semeur veut répandre le grain de façon abondante sur tout le champ pour être sûr d'avoir une moisson abondante et que le champ soit entièrement couvert. L'ennemi, lui, veut juste semer le trouble et il sait malheureusement qu'il n'a pas besoin de semer beaucoup d'ivraie pour produire des résultats néfastes. J'ai trouvé par exemple sur internet qu'il suffit d'une part d'ivraie dans 9 parts de blé pour que la farine soit inutilisable pour faire du pain. Donc cet acte de semer de l'ivraie dans le champ, c'était bien l'acte d'un ennemi. Et si le tri n'était pas fait à la récolte, la farine de blé était contaminée et était probablement inutilisable. Donc on voit le Seigneur avait semé une bonne semence dans son champ et le diable est venu semer le trouble, la zizanie. Et on s'en rend bien compte, hein, il suffit de peu de monde, avec un mauvais enseignement, des mauvaises mœurs, pour venir semer le trouble parmi les croyants. On est malheureusement assez témoin des scandales dans l'Église. Est-ce qu'on ne voit pas aussi un peu de cette confusion dans l'Église aujourd'hui quand on considère les différentes dénominations, différentes interprétations? Alors, à certaines époques, ça a été un peu plus sujet à comment dire, confrontation que à d'autres. Mais bon, le diable a réussi à semer la discorde à certains moments entre les croyants. Alors à l'époque des apôtres, il y avait déjà des fils du malin dans les églises. L'apôtre Paul nous en parle dans Actes 20, verset 29. Il nous dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. On voit aussi dans 2 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 13 à 15. L'apôtre Paul nous dit: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors ce passage nous parle de Satan qui se déguise, qui vient tel un ange de lumière, donc qui vient de façon dissimulée, comme le dit la parabole. Alors comment les fils du malin sèment-ils le trouble? On voit dans le premier passage qu'on a lu, là, par des enseignements pernicieux. La parabole, elle nous parle, elle nous dit au verset 41: « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Alors d'un côté, on a des enseignements pernicieux. De l'autre côté, on a des scandales. Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose? Un scandale, c'est quoi? On retrouve plusieurs fois ce mot dans la parole. Et ce mot, il contient l'idée d'une forte incompréhension, d'une offense, de quelque chose qui peut faire chuter dans la foi, de quelque chose qui provoque l'indignation. Alors bien sûr, il y a bien des scandales dans l'Église, des choses odieuses qui ne devraient pas s'y produire. Mais il y a aussi des enseignements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui peuvent provoquer l'incompréhension, l'indignation. Personnellement, il y a certains enseignements qui provoquent l'indignation en moi. Donc c'est des enseignements qui scandalisent. Le mot scandale, ça veut bien dire ces choses-là. Bon, malheureusement, cette parabole nous montre qu'il faudra attendre la fin du monde pour que toutes ces choses disparaissent. On est prévenu, il ne faut pas s'étonner. C'est seulement alors que nous connaîtrons le Seigneur tel qu'il est. Il n'y aura plus d'incompréhension. La gloire du Seigneur resplendira dans nos cœurs. On a envie de dire: Seigneur, que ton règne vienne. Alors que faire par rapport à l'ivraie? Malgré les effets négatifs que peut avoir l'ivraie, il n'est pas de notre responsabilité d'enlever l'ivraie. Nous sommes du blé, nous ne pouvons pas enlever l'ivraie. On n'a pas cette capacité. On ne peut pas déraciner l'ivraie. Et même à ses serviteurs qui demandent: veux-tu que nous allions l'arracher? Le maître dit non. Alors ses serviteurs, c'est qui? Est-ce que c'est, je ne pense pas moi qu'il s'agisse des serviteurs terrestres, des apôtres, des pasteurs, des anciens. Les serviteurs sont d'une autre nature que le blé. Je ne dis pas que c'est les mêmes nécessairement que les moissonneurs. Les moissonneurs sont désignés comme des anges. Mais en tout cas, ils ont la même nature que les moissonneurs, les ouvriers. Donc, pour moi, c'est quand même des anges. Donc, Ces serviteurs qui remarquent la pousse de l'ivraie sont pour moi aussi des anges. Et si Dieu donc refuse même à des anges de faire le tri avant l'heure, alors qu'eux devraient avoir quand même un discernement beaucoup meilleur que le nôtre, à plus forte raison, nous ne sommes pas là pour faire le tri dans l'Église. Alors pourquoi ? C'est le maître qui dit à ses serviteurs au verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » On a vu que la distinction entre le blé et l'ivraie, elle peut se faire seulement une fois que le fruit est sorti. Donc ça veut dire que le blé et l'ivraie ont déjà effectué une bonne partie de leur croissance ensemble. Ils ont déjà passé beaucoup de temps ensemble. Ils ont grandi l'un à côté de l'autre et les racines se sont probablement mélangées, enfin entrelacées. Donc arracher l'ivraie, ça provoquerait inévitablement au blé d'être, une partie du blé d'être déraciné. Et on peut le comprendre, des chrétiens, qu'ils soient faux chrétiens ou vrais chrétiens, qui ont vécu ensemble dans l'Église, si Dieu devait juger, ça provoquerait sans doute l'incompréhension pour certains chrétiens, et peut-être ça pourrait les faire tomber dans la foi. Alors Dieu nous aime trop pour accepter de perdre un seul de ses enfants. Le maître aurait pu dire, je vais arracher l'ivraie, même si je sacrifie quelques épis de blé, comme ça permettra aux autres de mieux pousser. Ou alors, il aurait pu dire ça pour son honneur personnel. On peut imaginer les gens qui passent à côté du champ, qui voient l'ivraie dans le champ, et qui se disent, voilà un homme qui ne prend pas bien soin de son champ. S'il s'occupait un peu de son champ, il verrait qu'il y a de l'ivraie, et il pourrait l'arracher. On peut entendre ça par rapport à tous les scandales qui se passent dans l'Église. Où est Dieu ? Que fait-il ? Le maître aurait pu dire, moi je veux un champ éclatant de pureté, sans une mauvaise herbe, et je sacrifierais bien quelques épis de blé pour ça. Mais non, Dieu aime, et il est prêt à ce que son honneur soit quelque peu bafoué pour préserver l'ensemble de ses enfants. Livrer les faux chrétiens avec leurs mauvaises œuvres amène du discrédit sur l'Église. Mais le Seigneur préfère laisser ces choses plutôt que de perdre un seul de ses enfants. Mais la parabole nous dit aussi que ces personnes ne resteront pas impunies, même si pour l'instant, on ne voit pas le jugement. On voit ça dans... On voit aussi cette même pensée dans Romains 9, verset 22. L'apôtre Paul qui nous dit « Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Voilà, le Seigneur est patient. À plus forte raison devons-nous l'être aussi. Et le Seigneur va plus loin que d'être simplement patient. Dans Matthieu 5, versets 43-45, on voit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Le maître du champ, là, a dû prendre soin de son champ. Je ne sais pas s'il y a un champ de blé, ça s'arrose ou pas, mais peut-être qu'il a mis de l'engrais. Enfin, il a pris soin de son champ, il l'a arrosé, bon, il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il va plus loin que juste tolérer leur présence. Alors, que devons-nous faire ? Comme on l'a vu jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose à faire, ce n'est pas de notre responsabilité d'arracher l'ivraie. Que signifie arracher l'ivraie ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser les mauvais enseignements se répandre sans rien dire, sans rien faire ? Est-ce que nous ne devons pas condamner les scandales ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour empêcher l'ivraie de se développer ? la discipline dans l'Église est-elle exclue? On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. L'apôtre Paul qui dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » On a l'impression que l'apôtre ici fait le tri quand même, fait le ménage. Est-ce qu'il est en train d'arracher l'ivré? C'est des paroles dures quand même qui sortent de sa bouche. Mais dans quel but écrit-il cela? Il dit « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ». L'objectif, même dans la discipline, c'est la vie. Quand le maître a planté du blé, son objectif, c'est que le blé porte du fruit. Alors, porter du fruit, c'est porter la vie de Christ en nous. Porter la vie de Christ, c'est refléter un petit peu les différentes facettes de son caractère. Alors, comme Christ a aimé, nous devons aussi aimer. Comme Christ a servi, nous devons aussi servir. Comme Christ a enseigné, repris, dénoncé le péché, nous devons également le faire. Donc arracher l'ivré, ça ne représente pas ces choses. Nous devons enseigner, nous devons reprendre, nous devons corriger, mais dans le but de faire vivre. Arracher, au contraire, c'est tuer. Donc arracher, là on voit de toute façon dans cette parabole, c'est Dieu hein, qui juge. Mais on peut nous aussi tuer avec la langue. On peut aussi avoir des effets très forts sur nos frères et sœurs. Donc là, la parabole, elle nous dit bien, c'est pas à nous à faire ce genre de choses, même si on pense qu'un frère n'est pas vraiment un frère dans la foi. Donc, une fois la plante arrachée, elle meurt. Et ça me fait penser au passage dans Luc chapitre 9, c'est l'attitude des disciples. Si on pense qu'on a cette autorité pour arracher, détruire, ça me fait penser à l'attitude des disciples et comment le Seigneur les a repris. Dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Alors, comme on voit, le jugement ne nous appartient pas. Nous travaillons pour la vie. Alors, bien sûr, donc voilà, il y a le livret dans l'Église. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'est pas là pour arracher, on n'est pas là pour juger. Je pense que le Seigneur, en utilisant cette parabole, cette image du blé qui pousse, il veut nous enseigner une attitude à adopter, plus que des choses à faire ou ne pas faire. Il nous rappelle l'objectif à garder en tête, c'est porter du fruit. Le blé n'a qu'une chose à faire, se développer pour porter du fruit. Il ne se développe pas pour recouvrir l'ivraie. Nos regards dans la vie de la foi doivent se porter vers le Seigneur. si on commence à regarder ceux qui nous entourent, on aura vite fait de voir la poutre qui est dans l'œil du voisin plutôt que la paille. La paille qui est dans l'œil du voisin plutôt que la poutre qui est dans le nôtre. On doit au contraire se concentrer sur le Seigneur et accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est comme ça que nous combattrons le mal. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ce n'est pas en nous plaignant des scandales qui se produisent dans l'Église que nous allons changer quelque chose. Nous devons avoir une attitude positive et essayer de combattre le mal en employant... Nous ne devons pas essayer de combattre le mal en employant les mêmes méthodes que lui, en arrachant, en détruisant. Ce qu'on doit faire, c'est au contraire s'enraciner profondément dans la parole, l'amour du Seigneur, la communion fraternelle, pour pouvoir nous développer le mieux possible, prendre le plus de place possible dans le champ. C'est peut-être pour cela que le Seigneur a permis qu'il est livré aussi dans le champ, il aurait pu éviter tout ça. Mais la présence de livré nous force, si on considère qu'il y a une compétition entre le blé et livré, si le blé veut pousser, il est obligé de bien s'enraciner pour prendre tout ce qu'il a besoin dans le sol. Donc nous devons nous enraciner dans la parole et garder nos regards sur le Seigneur. Alors développons-nous dans le Seigneur. Nous avons dit que le blé ne se développe pas pour recouvrir l'ivraie, ce n'est pas son but, mais en se développant, il le fait naturellement. À défaut de déraciner l'ivraie, on peut l'étouffer en prenant toute la place. Alors que chacun prenne sa place dans l'Église du Seigneur pour éviter que l'ivraie ne la prenne. Alors pour conclure, je dirais, dans cette parabole, le Seigneur nous annonce à l'avance ce qui va se passer dans l'Église. On ne doit pas être surpris de tous les scandales, de tout ce qu'on voit, ce qui se passe dans les Églises. Il nous dit à l'avance, l'Église n'était pas encore, c'était les disciples avec le Seigneur, mais elle n'existait pas encore comme telle. Mais déjà, le Seigneur nous annonce que l'ennemi viendra y jeter le trouble. Le Seigneur nous dit, n'oubliez pas ce pourquoi je vous ai planté, pour porter du fruit. Donc gardons nos regards sur le Seigneur, même à travers les difficultés qu'on peut rencontrer, même au sein des églises, et ne nous attardons pas sur les scandales, sur des personnes qu'on peut juger avoir un enseignement faux. N'essayons pas de faire le tri dans l'église. Gardons cet objectif en tête, de porter du fruit pour le Seigneur. Et si tu es troublé par des personnes, par des enseignements, je te laisse avec ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, accrochons-nous à ce que nous savons être certain et avançons avec ça. Et à la fin, après avoir grandi au milieu de l'ivraie, le blé est récolté dans les greniers. Il est juste, après toutes les difficultés, même au sein des églises qu'ils rencontreront sur la terre, ces justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Gloire à Dieu.